Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris. 93.
Les Journées nationales de l'archéologie.
Des ossements.
Des céramiques.
Des tractopelles.
Des pelles.
Mieux.
Des truelles.
Des objets.
Des fouilles.
Des experts.
Des balades.
Des films.
Des numériques.
Des photos.
De la reconstitution.
Des archives.
Des gladiateurs en jupe.
C'est tout ce que vous pourrez voir, vivre, rencontrer pendant ce week-end. Le week-end des 8e Journées nationales de l'archéologie, qui se tient partout en France depuis hier, le vendredi 16 juin, aujourd'hui, toute la journée, et ce jusqu'à demain, dimanche 18 juin.
À Paris, l'hôtel de Soubise, situé dans le 3e arrondissement, abrite le site parisien des Archives nationales. Et c'est là que l'Institut national des recherches archéologiques préventives, l'INRAP, a décidé d'installer ce week-end son village de l'archéologie.
Et nous, aux pierres qui roulent, on a décidé d'y poser nos micros pour cette dernière de l'année et vous faire découvrir les acteurs et les découvertes de l'archéologie nationale et tout particulièrement francilienne.
Certains viendront à nous et on ira aussi vers d'autres, bref, on sera partout. Les pierres qui roulent, votre rendez-vous mensuel d'archéologie, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.
Alors dans ce village, on pourra voir, visiter pas moins d'une trentaine d'exposants. Alors 30 exposants, ça met du temps à s'installer, c'est un peu compliqué. J'étais là justement avant-hier sur le chantier de l'installation du village. Voici un petit bout, quelques petites bribes de l'ambiance du montage de ce village.
De tasser sur les bords aussi.
Ouais, je passe au pouce là.
Okay.
Comme c'est argileux, ah, du coup ça bouge plus après.
Ça marche.
Tu vois, bien tasser au bord. Ça c'est 50. Ok, ça c'est 100. Elle est tordue. Ça c'est 150. C'est là. Je les enfonce là après. Et voilà, c'est ça. Donc là, il y a le carouillage. C'est bon, Lélia ? Attends, regarde, ça c'est le débitage, j'en ai un autre. Attends, je vais les repartir. Ça, c'est le débitage.
Galette à tester.
Tiens, attends. Non, il n'y en a pas un noir. Ah !
Alors dans notre tour des stands du village de l'archéologie, le premier sur lequel on est tombé, c'est le stand de l'Université Paris 1. Alors bonjour.
Bonjour.
Tu peux nous rappeler ton nom ?
Aline.
Et donc Aline, toi tu t'occupes de gérer le stand de Paris 1 pendant les journées nationales de l'archéologie. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce stand ? Qu'est-ce que présente l'Université Paris 1 au grand public ?
Alors, donc déjà, ça présente un petit peu à tout le monde, pour tous les âges, l'université en elle-même, le parcours universitaire qu'on peut y faire, la licence, les différents masters, les doctorats éventuels. Et puis, il y a aussi la présentation avec des petits posters des différentes spécialités, des techniques qu'il peut y avoir, que ce soit la 3D, l'archéologie subaquatique, enfin, plein de petites choses comme ça, la céramologie également, pour présenter vraiment toute la diversité de l'archéologie qu'il y a dans cette université.
Et ces posters, en fait, ils ont été réalisés par qui ?
Par des étudiants, donc pas moi personnellement, mais il y a pas mal d'étudiants bénévoles qui s'y sont mis et on a fait ça un petit peu tous ensemble. C'est un petit truc collaboratif comme ça, pas que des volontaires.
Est-ce que ces posters, on peut les retrouver ailleurs qu'aux Journées nationales de l'archéologie ? Ils sont disponibles, par exemple, en ligne ?
Alors, pas pour l'instant, mais bientôt, oui, ils vont l'être. Il suffira de taper archéologie Université Paris 1 et on pourra retrouver tout ça sur la page Internet. Oui.
Donc, il y a un poster, la prospection archéologique, un autre, la 3D en archéologie, l'archéologie subaquatique, la céramologie, l'archéothanatologie. Tiens, c'est bizarre, ça, archéothanatologie, c'est un peu bizarre comme mot. Les autres, je pense, concernent à peu près, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer l'archéothanatologie, en quoi ça consiste ?
Oui, en fait, c'est tout simplement l'archéologie du funéraire. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent l'anthropologie funéraire. Donc, c'est tout ce qui va concerner les restes d'ossements humains.
Et j'ai vu aussi que sur le stand, il y a des ordinateurs qui sont disponibles et on peut aussi écouter des petits supports audio. De quoi s'agit-il ?
Alors, en fait, on a fait des petits podcasts, en fait, des petites vidéos très courtes qui s'intitulent toutes « Comment devenir archéologue ?» avec différentes spécialités. Donc, il y a des professeurs qui ont été interviewés, des doctorants également, qui présentent tous un petit peu leur domaine de spécialité.
Combien de vidéos sont disponibles pour l'instant ?
Je crois qu'il y en a à peu près une quinzaine et on peut les retrouver sur YouTube.
Il y a une chaîne qui est d'ores et déjà ouverte ?
Oui, il y a une chaîne qui est dédiée à ça, pareil, liée à Paris 1, ça se retrouve très facilement sur Internet.
Merci beaucoup Aline, bon courage pour cette fin de week-end. Search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? Where can you learn to fly, play in sports or skin dive, study oceanography? Your mind at ease.
In the Navy.
Come on now, people, make a stand.
In the Navy.
Can't
in
you
the
see
Navy.
We need a hand?
In the Navy.
Come on, protect the motherland.
In the Navy.
Come on and join your fellow man.
In the Navy.
Come on, people, and make a stand.
In the Navy.
In the Navy.
In the Navy.
Seven seas.
In the Navy.
Yes, you can put your mind at ease.
In the Navy.
Come on, people, and make a stand.
In the Navy.
Can't you see we need a hand?
In the Navy.
Come on, protect the motherland.
In the Navy.
Come on and join your fellow men. C'était In the Navy des Village People. Bah oui, parce qu'on est au village de l'archéologie. Alors on s'est dit que c'était le moment ou jamais de passer un morceau de ce groupe. Et In the Navy, pourquoi ? Eh bien parce que dans ce village, on voit tous qu'on est tous dans le même bateau. Tous les acteurs de l'archéologie sont réunis dans un seul et même endroit. Je vais donc passer le micro à Enora, qui est en train de cheminer quelque part dans le village.
Je marche.
Et donc, Enora, qu'as-tu trouvé sur ton chemin ?
Alors, j'arrive sur le stand de Laura, que je vais venir interviewer tout de suite pour savoir ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là. Bonjour !
Bonjour !
Qui êtes-vous ? Que faites-vous ?
Alors, je m'appelle Martin et je représente une équipe du laboratoire AOROC, archéologie d'Orient et d'Occident, qui est basée à l'École Normale Supérieure. On a une petite équipe d'étudiants et d'une chercheuse qui sont là pour montrer au public à la fois les fresques à la romaine, que vous avez peut-être vues juste avant, et puis, pour nous, c'est la pratique de la numismatique celtique et plus précisément la frappe de la monnaie.
Alors, comment vous faites si vous n'avez pas tous les éléments pour frapper là ? Qu'est-ce
Alors,
que vous proposez ?
On a quand même un certain nombre d'éléments. Si vous vous approchez, vous pourrez voir une petite installation sommaire. Mais finalement, on suppose que nos ancêtres, les Gaulois, se contentaient aussi de peu. Un billot de bois, des coins monétaires, c'est-à-dire des pièces en fer qui contiennent des petits éléments en bronze qui a été gravé. Et donc en creux, vous avez une image qui va apparaître en relief sur la pièce que vous avez frappée. Vous avez donc un coin fixe qui est fixé dans ce gros bio de bois que vous avez sous les yeux. Et puis vous avez ce qu'on appelle un coin mobile, donc qui est l'autre face de la pièce, qui a le même dessin, enfin pas le même dessin, un autre dessin gravé en creux. Et entre ces deux coins, vous allez insérer une rondelle de métal que vous avez préalablement fabriquée. On appelle ça un flanc monétaire. Vous placez donc le flanc entre les deux coins et vous donnez un coup de burin sur le coin mobile et vous ressortez par magie avec une pièce qui présente donc de chaque côté un motif en relief. C'est peu ou prou le même système pour fabriquer nos euros aujourd'hui. Évidemment, la différence, c'est que dans l'Antiquité celtique, on fabrique ça à la main, une par une, même si c'est des séries parfois importantes. Aujourd'hui, tout est industrialisé et automatisé.
Et là, vous dites que c'était du fer, mais il y avait d'autres types de métaux.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui est en fer, c'est simplement les éléments qui contiennent les coins monétaires, qui eux le plus souvent sont en bronze. On prend du fer parce qu'il nous faut un métal suffisamment dur sur lequel frapper et ne pas détruire la monnaie qu'on est en train de fabriquer. Nous, on utilise pour nos flancs de l'étain parce que c'est un matériel qui est très facile à fabriquer et à marteler à froid, même à froid. Eux utilisaient à la fois de l'or, de l'argent et du bronze. Et les flancs étaient d'abord passés à chaud pour les rendre plus malléables et faciliter l'empreinte de la monnaie.
Et donc entre l'or, l'argent, le bronze, est-ce qu'il y avait des étages différents de valeur pour ces...
Oui, bien sûr. Alors dès la plus haute antiquité, la valeur de l'or, qui est encore celle qu'on connaît aujourd'hui, la suprématie de l'or, était tout à fait connue. On a un découpage spatial assez schématique où on utilise assez l'or, c'est-à-dire l'étalon or, c'est un poids de l'or qui fait référence pour la conversion des monnaies, plutôt dans la partie nord de la Gaule, également dans la partie ouest de la péninsule ibérique. À l'inverse,
on les entend taper,
effectivement. Et à l'inverse, on a de l'argent qui est utilisé plutôt dans le sud de la Gaule et dans l'est de la péninsule ibérique.
Donc là, vous avez des adultes, mais aussi des enfants qui viennent taper. Est-ce qu'ils peuvent repartir avec les pièces ?
Oui, alors c'était bien sûr l'objectif. Petit comme grand, tout le monde peut repartir avec sa monnaie celtique. Évidemment, sur un des côtés, on a mis le sigle du CNRS pour s'assurer que ces monnaies ne repartent pas sur le marché et ne viennent pas embêter les sites archéologiques.
Et sur l'autre côté, est-ce qu'on peut mettre son propre visage ? Parce que là, je vois, sur les tables que vous avez présentées, il y a différents types de visages. Vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les images qu'on représente généralement sur ces pièces ?
Tout à fait. Alors l'objectif, c'était en fait de montrer d'abord la très grande diversité des profils monétaires. Vous voyez qu'il n'y en a pas un qui ressemble aux autres. C'est d'abord lié à la très grande diversité des peuples gaulois eux-mêmes. Il ne faut pas s'imaginer une Gaule occupée par un peuple qu'on appellerait les Gaulois ou les Celtes. Non, il y a une mosaïque qui est bien plus importante que même nos départements français actuels. Et finalement, on se rend compte, on suppose, mais c'est assez probable, que chaque peuple a son propre monnayage, a ses propres références, ses propres symboles qu'il va mettre sur ses monnaies. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'origine du monnayage celtique, elle est orientale, ex oriente lux comme toujours. Dans le cas de la monnaie, c'est des prototypes grecs qui sont importés dans différents cas de figure, à la fois avec l'arrivée des Grecs et des colons grecs depuis la Grèce continentale et la Grèce égéenne jusqu'aux côtes méditerranéennes plus à l'ouest, dont par exemple Marseille. Vous avez sur une des feuilles une monnaie qui présente les lettres MA, une obole de Marseille, c'est Massalia en grec. C'est une monnaie gauloise mais qui reprend complètement un type d'origine grecque, exactement. Et puis vous avez également cette monnaie assez fameuse d'un profil d'homme. Et cet homme, ce n'est autre que Philippe II de Macédoine, c'est le père d'Alexandre le Grand, avec de l'autre côté un char sans doute guidé par Apollon. Et c'est ce type qui a été également rapporté vraisemblablement par des mercenaires celtes employés dans les conflits orientaux à la fin du IVe siècle et qui reviennent payer avec ces monnaies-là pour leurs soldes. Ils reviennent chez eux en Gaule et avec un mécanisme à la fois très long et très complexe à expliquer, puisqu'ils arrivent, ils rentrent dans une économie qui n'est pas monétarisée hein, quand ils reviennent avec eux. Ils vont introduire ces monnaies et petit à petit, ils vont être reprises, mais en s'éloignant toujours un peu plus, en fonction du temps, du modèle originel. Vous avez quelques photos ici de ce même type du portrait qui, de très figuré, de type parfaitement hellénistique, va petit à petit devenir de plus en plus celtique, de plus en plus gaulois, avec le développement de symboles comme l'ess ou le tricel, qui appartiennent pleinement au schéma iconographique celtique. Généralement, on parle d'un développement de l'abstraction et du schématisme, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est une façon aussi, c'est nos yeux contemporains qui le voient comme ça. Il faut bien s'imaginer que les Gaulois projettent aussi dans ces monnaies, qui sont d'abord des symboles de pouvoir, de propagande, des signes de communication, ils projettent des choses qui, pour nous, ne sont plus perceptibles, évidemment.
On parle d'abstraction, et là je vois quelque chose qui ressemble à du Picasso. Me trompe.
Oui, alors c'est effectivement, on pourrait presque l'appeler comme ça. Alors c'est une monnaie qui a été émise par le peuple des Volques Tectosages dans le sud de la France. C'est une monnaie en argent qu'on appelle monnaie à la croix, ce qui s'explique assez bien par ce type au revers donc d'une croix. Et dans chaque quart sont insérés différents symboles. Là encore, je laisse tout le monde libre de les interpréter parce qu'ils ne sont pas toujours évidents. Comment interpréter ce schématisme? Les hypothèses sont ouvertes. Voilà. Il y en a beaucoup qui arrivent à émettre des hypothèses, parfois très farfelues. On fait des rapprochements, plus ou moins fondés, là encore, avec les textes irlandais, médiévaux, qui relatent des épisodes mythologiques celtiques, mais beaucoup plus tardifs. Par exemple, sur cette monnaie que vous avez là, où on voit le personnage qui n'est autre que le cocher qu'on voyait sur le Stater d'or de Philippe de Macédoine avant. Ce cocher qui a un énorme bras gauche qui se termine par une main, vous voyez, devant le cheval, donc très très éloigné.
Un cheval à tête d'homme.
Un cheval à tête d'homme par ailleurs, un cheval androcéphale. Eh bien, on pense que ce cocher, il pourrait être la représentation d'un dieu celtique qu'on connaît par le panthéon irlandais.
Donc des dieux, des humains et peut-être nous, puisque je vois dessine ta monnaie gauloise. Est-ce qu'on peut se dessiner nous-mêmes?
Alors bien sûr, hein, c'était un atelier qui était d'abord destiné aux enfants puisqu'on accueillait des scolaires vendredi, hier, mais il est bien sûr ouvert à tout le monde. L'idée, c'est justement de partir de ce constat de la très très grande diversité pour favoriser l'imaginaire de tout un chacun. Et on a eu, force est de constater qu'on a eu de très belles surprises hier avec des enfants qui nous ont fait des choses assez incroyables et qui projetaient leur univers contemporain dans ces monnaies.
Super, donc on vous retrouve aujourd'hui toute la journée jusqu'à 19h aujourd'hui.
Oui, nous serons là.
Et demain également toute la journée. Merci beaucoup, bonne continuation.
Merci à
bientôt sur le village de l'archéologie, au revoir. Léa, c'est à toi.
Alors c'est à moi. Effectivement, alors à l'occasion des journées nationales de l'archéologie, il n'y a pas que des exposants à l'extérieur, il y a aussi des choses que l'on peut visiter à l'intérieur même des archives, puisque ce que l'on appelle les grands dépôts, c'est-à-dire les espaces dans lesquels sont stockées les archives, sont visitables et ont été enrichis pour l'occasion de quelques objets archéologiques exposés, et notamment ceux issus du musée Carnavalet. On a suivi hier Sylvie Robin, conservatrice au musée Carnavalet, qui nous les a présentés.
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Haussmann va complètement rénover Paris sous l'impulsion de Napoléon III. Donc il y a de grands travaux qui sont engagés, de nombreuses découvertes archéologiques qui sont faites. Et à l'issue de ces découvertes, la municipalité parisienne décide de créer trois institutions qui vont encadrer le patrimoine, la conservation du patrimoine archéologique notamment. Donc il y aura la commission du Vieux Paris qui aura en charge de faire les fouilles, la bibliothèque historique de la ville de Paris qui aura en charge de conserver la documentation, pas uniquement archéologique bien sûr, et le musée Carnavalet qui aura en charge d'exposer ce qui proviendra essentiellement des fouilles au début, et puis après le musée Carnavalet va se développer, elle va avoir des collections qui vont toucher toutes les périodes et tous les supports. Alors, le service archéologique, la commission du Vieux Paris est devenue le département d'histoire de l'architecture et de l'archéologie qui est présent dans la cour. Et comme ce département a fait il y a 2 ans une fouille à Saint-Germain-des-Prés, nous nous sommes dit, avec nos collègues de la BHVP et donc de Carnavalet, qu'on allait parler de la fouille de Saint-Germain-des-Prés, puisqu'il y a une actualité et en même temps un passé, puisque Saint-Germain-des-Prés, c'est une grande nécropole mérovingienne qui a été fouillée à plusieurs occasions par Théodore Vaquet, qui est un peu le premier archéologue de l'histoire de Paris, et qui a suivi justement tous les travaux d'Haussmann au XIXe siècle, et qui a réuni, qui a vraiment surveillé tout Paris. Dès qu'il y avait un trou dans Paris, il était là, il ramassait, il relevait. Il est architecte de formation, donc il a fait des relevés magnifiques. Et tous ces documents ont été réunis à la BHVP, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Ça s'appelle les papiers vaqués, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc ces documents, ce sont des lettres, ce sont des croquis, ce sont des coupes stratigraphiques. Et les objets archéologiques ont été versés au musée Carnavalet. Et donc j'ai sorti des réserves, puisqu'en ce moment le musée Carnavalet est fermé pour travaux, pour rénovation. Donc j'ai sorti quelques objets pour illustrer le fait que justement, grâce à ces institutions, on a d'un côté les archives et les documents, et de l'autre côté les objets, et on peut faire parler les archives papier et les archives objets, et ça permet vraiment de reconstituer entièrement l'histoire de ces opérations archéologiques qui sont passées au XIXe siècle. Donc ces objets, à l'époque où ils ont été portés, ils brillaient comme ils étaient très très brillants, évidemment. Après un séjour dans la terre, ils ont été oxydés, et quand les restaurateurs travaillent cette oxydation, ils obtiennent cette couleur qui est un peu brune, terne. Et donc il faut s'approcher assez près pour voir les décors. Et donc on a là deux types de boucles de ceinture. Donc à l'époque mérovingienne, les hommes et comme les femmes portent des boucles de ceinture. Alors les plus connues, c'est ce qu'on appelle les plaques-boucles, qui sont des énormes dispositifs de ceinture très très lourds. Moi j'ai choisi de vous présenter des boucles qui étaient effectivement portées, enfin qui sont portables parce qu'elles ne pèsent pas un kilo. Et vous avez ici un collier, alors un collier d'une trentaine de grains, on parle de grains plutôt que de perles, et donc c'est de la pâte de verre. Et justement, comme ces perles sont uniquement en pâte de verre, on a pu le dater du 7e siècle. Donc c'est une technique qu'on peut encore trouver aujourd'hui chez les verriers italiens, qui consiste sur une perle de base à déposer des filets de verre coloré à chaud. Et donc du coup, ça fond et ça fait ces motifs en spirale, en chevron que vous avez là sur les... On voit mieux sur les photos. Et à partir donc du type de décor, du type de fabrication des perles, on arrive à dater, parce que les archéologues recherchent avant tout des datations. On croise les datations pour arriver à dater les tombes, à dater des successions de tombes, et c'est comme ça qu'on procède pour arriver finalement à avoir une chronologie un peu précise d'un cimetière. Et notamment dans le deuxième manuscrit ici, un plan très très précis de ces relevés justement de nécropole avec toute la position des sarcophages. Et nos collègues de la commission du Paris des HAP ont pu, en reprenant ces plans, les mettant sur le parcellaire actuel, se dire ah bah tiens là il y a des travaux, peut-être que Vaquet n'a pas été fouillé jusque-là. Ils ont retrouvé en fait les limites de la fouille de Théodore Vaquet, donc 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, hein, puisqu'on passe de 79 à 2015, donc voilà, vous calculerez la différence. Donc ils ont retrouvé la limite, ils ont même retrouvé un sarcophage, la première moitié avait été fouillée par Vaquet, et donc ils ont retrouvé l'autre partie. Donc c'est grâce à ces relevés très très précis qu'on arrive à construire l'histoire de Paris.
Les Journées nationales de l'archéologie.
Radio Campus Paris.
Alors nous étions à l'instant dans les grands dépôts avec Sylvie Robin, conservatrice du musée Carnavalet. Et bien nous continuons à être à Carnavalet, mais cette fois à l'extérieur, dans la cour de l'hôtel de Soubise, avec Frédéric Roussel. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Tu es responsable donc du stand qui couvre non seulement Carnavalet, mais aussi la crypte.
La crypte archéologique du Parvis Notre-Dame et les catacombes de Paris.
Donc ça fait 3 ans. Hein. Pourquoi rassembler les 3 ?
C'était une décision de la mairie de Paris, puisque nous sommes 3 musées de la ville de Paris. Dans un total de 14 musées qui sont gérés par la ville de Paris. Et ces 3 musées qui parlent vraiment de l'histoire de Paris ont été réunis au fur et à mesure du temps. Voilà.
Et puis en plus, c'est bien parce que Carnavalet est enfermé en ce moment. Du coup, les autres peuvent éventuellement prendre le relais. Alors, pas tout à fait sur les mêmes thématiques et sur les mêmes...
Absolument.
Mais voilà, il est bien que tout le monde s'entraide dans ces cas-là.
En plus, la crypte archéologique, actuellement, il y a une exposition qui s'appelle « L'or du pouvoir » et sont présentées justement dans cette exposition des œuvres qui sont à Carnavalet.
D'accord, très bien. Donc, en plus du parcours historique traditionnel, on peut assister à cette... on peut visiter cette exposition.
À cette exposition, qui est en plus adaptée à tous, puisqu'il y a aussi des activités pour les enfants dans cette exposition.
Et donc, l'or du pouvoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette exposition ?
C'est une histoire sur les monnaies et les relations avec le pouvoir. Et ça part des Parisiens, donc les Gaulois qui habitaient donc cette région, jusque la fin du 19e siècle, à travers essentiellement des monnaies des différentes époques gauloises. Et même, on voit l'évolution, par exemple, des pièces sous Louis XIV. Ces monnaies sont une illustration, justement, du pouvoir des rois, des empereurs qui se sont succédés
Donc l'histoire au fil des monnaies, mais c'est aussi, les monnaies, c'est au centre du fonctionnement économique aussi d'un pays, d'une ville. Donc on a à la fois la représentation du pouvoir politique, mais aussi le nerf de la guerre.
Économique.
C'est ça, tout à fait, exactement. Et est-ce qu'on peut assister à des frappes de monnaie?
Non, pas de démonstration, mais il y a des petits ateliers pour les enfants.
D'accord.
Et puis il y a tout ce parcours avec des grands panneaux, avec les objets exposés. Et on a toute une série d'activités qui sont proposées, même pour les adultes, autour de ces pièces et de ces objets. Puisqu'il n'y a pas que des pièces, il y a aussi des objets, comme des fibules, par exemple. Ou aussi, une petite chose qui a été découverte il y a quelques années, quand on a fait un grand nettoyage de la crypte archéologique. Et en nettoyant, on a découvert plein de petites monnaies qui étaient tombées derrière le banc des thermes. Parce qu'il y a un établissement de thermes, ouais. Donc à la crypte, et apparemment quelqu'un à l'époque gallo-romaine avait laissé tomber son porte-monnaie.
D'accord.
Et on a retrouvé toutes ces petites monnaies qui est exposée. Enfin, toutes ces monnaies sont exposées à la crypte actuellement.
Donc presque de manière inédite, quoi, finalement.
Oui, absolument.
C'est une découverte
absolument.
Hyper récente.
C'est très très récent.
Très récent. D'accord. Et l'actualité aux catacombes, quelle est-elle?
Alors, les catacombes, depuis 2 jours, il y a une nouvelle exposition qui a ouvert. Donc, c'est Sylvie Robin, que vous avez entendu tout à l'heure, qui l'a montée, autour des fouilles de la Trinité. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ces fouilles qui ont lieu dans le sous-sol d'un supermarché que je ne nommerai pas.
Et dont on a parlé il y a quelques émissions. Le podcast est disponible, hein, les fouilles, ouais. Effectivement, de ce fameux supermarché.
Voilà. Et donc, c'est une exposition sur panneau qui explique donc ces fouilles et le résultat de ces fouilles, bon, des fouilles qui ont été faites avec l'INRAP, hein, naturellement, et ça explique un petit peu tous les résultats, et donc ça a ouvert jeudi soir.
D'accord, et quel est le lien? Pourquoi mettre cette exposition-là dans ce lieu-là?
Ce sont des ossements, hein, qu'on a trouvés à la Trinité, donc elles ont tout à fait leur place au niveau de l'ossuaire des catacombes, hein, parce que les catacombes, ce ne sont pas seulement des galeries souterraines, on ne va pas seulement parler de géologie ou des carrières, mais aussi justement de l'ossuaire, et ça avait vraiment un lien avec ces recherches qui ont été faites du cimetière de la Trinité, et avec Carnavalet actuellement qui est fermé jusque 2020, donc on a tout un travail aussi de réflexion sur la future muséographie. Donc on a beaucoup de travail actuellement.
Et de redéploiement éventuel des collections, oui. Comment les montrer?
Actuellement, par exemple, je travaille sur tout ce qui est œuvres à hauteur d'enfant.
D'accord.
Donc sélectionner au minimum 350 œuvres qui seront à hauteur d'enfant. Normalement, c'est 10% de ce qui va être présenté au public. On espère pouvoir en mettre encore plus pour les enfants. Donc là, actuellement, on est en train de travailler là-dessus. Carnavalet est un très, très vieux musée, puisqu'on a ouvert nos portes en 1880, donc bientôt 150 ans. Et c'est vrai qu'il est un petit peu poussiéreux. Et c'est une nouvelle réflexion qu'on a pour la mise en valeur de nos collections, qui sont très, très riches, puisqu'on on approche des 650 000 œuvres. D'après ce que j'ai pu comprendre, on a plus d'œuvres que le Louvre. Donc, il faut essayer de les mettre en valeur.
Ce serait bien de valoriser tout ça, effectivement. Ouais. Très bien. Bah, la valorisation, elle passe déjà par la participation à ce type de manifestations comme les Journées nationales de l'archéologie. Donc, je rappelle, Frédéric Roussel, vous tenez un stand derrière les cris des légionnaires qui...
Et oui, c'est Gladius Cutumque qui sont en train de se battre, hein, entre les légionnaires et les Gaulois.
Donc voilà, c'est ça. Donc on assiste à une deuxième guerre des Gaules au milieu de Tête de Soubise. Donc c'est vraiment the place to be, cette cour aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric.
Avec plaisir.
À bientôt et bon courage.
Merci.
Alors Enora, je vais revenir voir ma collègue Enora. Je sais
suis
pas.
Là.
Tu es là? Ah, je te vois. Alors vas-y, nous t'écoutons. Où es-tu Enora?
Je suis donc de l'autre côté. Hein. Tu me vois, je suis loin, mais tout fonctionne. Je suis avec Annick Pejon. Nous sommes donc en face d'un stand où on fait de l'écriture cunéiforme. Donc je vais lui demander de nous expliquer ce que c'est, qui elle représente et ce que vous faites ici.
Voilà, bonjour. Donc moi, je suis responsable du service éducatif des Archives nationales. Donc nous avons effectivement coordonné un certain nombre d'ateliers à destination donc des enfants, du public scolaire hier. Aujourd'hui, donc, c'est le grand public. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ailleurs que des enfants, aussi beaucoup d'adultes qui se joignent aux plus petits. L'idée, effectivement, était de nous allier là, avec la maison de l'archéologie et de l'ethnologie pour faire des ateliers en fait en commun autour de l'écriture, donc la MAE. cette maison de l'archéologie et de l'ethnologie présente donc un atelier cunéiforme, c'est-à-dire à savoir une de ces écritures sur tablette d'argile, avec en fait un roseau qui est taillé en forme de coin et qui va permettre effectivement de faire d'assembler un certain nombre de signes qui correspondent à des idéogrammes, à des alphabets. De notre côté, donc, on a proposé un atelier, non pas avec un roseau taillé, mais avec aussi un roseau taillé, mais qu'on appelle donc le calame, et qui lui va nous permettre d'écrire à l'encre. Donc ce sont des encres soit d'origine animale, hein, la pieuvre, vous savez, qui donne son jet d'encre, et puis des encres également de nature végétale, phyrogallique également, c'est-à-dire qu'à base de noix de galle, que l'on va faire macérer et auquel on va ajouter en fait un sulfate de cuivre ou de fer pour faire en fait ces encres très noires qui réagissent en fait grâce au tanin du chêne et avec lesquelles les enfants donc vont pouvoir écrire comme à l'époque des Mérovingiens ou comme à l'époque des Carolingiens.
Alors est-ce qu'on peut s'approcher un tout petit peu pour voir ce qui est produit par les enfants justement ? Donc on a donc des lettres de l'alphabet.
Voilà, donc on reconnaît effectivement nos écritures, une écriture qui nous est assez familière, c'est une écriture caroline, donc qui correspond en fait au moment de la Renaissance carolingienne à une minuscule, qui nous est familière parce qu'elle a servi aussi de modèle à d'autres écritures, l'humanistique qui sert pour l'imprimerie, les premiers caractères d'imprimerie, et puis ensuite quand il a fallu choisir une écriture également dans le cadre de l'école de Jules Ferry, elle a encore servi de base, d'où en fait un caractère qui nous semble assez familier. Par contre, pour s'initier en fait à la façon de tracer les lettres, on a mis à disposition du public ce que l'on appelle un ductus, ça vient du latin ducere, hein, qui veut dire conduire, qui en fait associe à la fois des petites flèches et puis des petits numéros. Il va falloir suivre le sens de la flèche avec le calame.
Comme une danse en fait.
Exactement, et puis bien sûr dans l'ordre, ce qui va nous permettre d'avoir une écriture extrêmement en fait... presque chorégraphie, vous avez parlé de danse, absolument, c'est une écriture quasiment chorégraphiée, qui est assez élégante, assez ronde également, et qui a aussi possède l'avantage d'être facilement accessible aux plus jeunes. Donc on accueille là des enfants globalement à partir du CP, c'est-à-dire que quand ils commencent effectivement à déjà maîtriser un petit peu l'écriture. Et l'idée, c'est déjà de les initier à cette écriture avant de pouvoir écrire sur un marque-page leur prénom en écriture caroline.
Super. Et est-ce qu'ils peuvent repartir également avec des éléments qui leur ressemblent, leur nom sur un papier peut-être ?
Voilà, donc ils repartent avec le ductus qui est donc un petit peu la page d'exercice et ensuite ils vont faire donc un surcanson sur parchemin végétal. Ils vont repartir en fait avec l'objet qu'ils auront calligraphié à leur nom, à leur prénom. Et là, on voit également, on travaille aussi avec nos collègues du service.
Oui, j'allais vous le dire, il y a des sceaux.
Juste à côté. Ben, et donc là, les enfants, en fait, ont, avec du parchemin végétal, préparé un petit diplôme, comme au Moyen-Âge, qu'ils ont scellé avec un sceau. Donc là, on n'utilise pas de la cire. Parce que
c'est un double atelier, alors.
Voilà, en fait, l'idée, c'est un petit peu d'avoir exactement des ateliers où les enfants en fait, peuvent faire une, deux, trois activités distinctes. Et l'idée, là, c'est de repartir donc, avec son petit original scellé et calligraphié à son nom.
Super. Je vais aller regarder ce qu'ils font du côté des sceaux. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Je crois que vous avez une visite des dépôts.
Voilà, donc là, on va effectivement continuer avec une visite tout public dans les grands dépôts où nous avons sorti pour l'occasion des documents.
Voilà.
D'archives et également des documents qui proviennent du musée Carnavalet.
Voilà, donc, c'est ce qu'on disait à l'instant du coup avec Sylvie Robin et son équipe. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Je vous souhaite une bonne visite.
Merci,
et à bientôt.
Merci.
Au revoir. Léa, à toi.
En parlant de danse écrite, un petit moment, une petite pause musicale.
Sunday night, he took a dip in the ocean and he wished in the pale moonlight. He said, well, what is a mermaid? The soft, gentle and sweet. And I call up those wild city girls, the kind I always meet. fell asleep in the sand and awoke at high tide to the sound of a delicate, sweet singing mermaid lying by his side. The mermaid, delightfully named Jill, fed him a wild and savage kiss. She dug her nails deep into his skin, and poor Christopher fainted from bliss. Feast. They cackled in the night. It tore Christopher apart, ripped his frail body wide open, chewed on his liver, kidneys, and heart. What a wild night for Chris. Why so delicate and sweet, destroyed by a kiss?
Les journées nationales de l'archéologie.
Et Nora,
oui,
est-ce que tu arrives à accompagner?
Je suis avec le Centre d'analyse et de recherche en art et archéologie.
Parfait.
Bonjour.
Alors bonjour, moi je suis Nima Saïdlou et je suis xylologue, donc je fais de l'identification des essences de bois.
Bonjour, et vous?
Bonjour, moi je suis Michel Bouchard et je suis scientifique de la conservation. On travaille sur l'analyse des objets du patrimoine culturel.
Super, donc ici qu'est-ce que vous représentez, de quoi vous parlez?
On représente nos laboratoires en fait, ouais. Puisqu'on est deux laboratoires privés. Et on a amené des petits échantillons pour montrer au public un petit peu comment on travaillait, mm-hmm. et quelles étaient les problématiques auxquelles on pouvait répondre.
Bien sûr, donc des échantillons de quel type?
Donc il y a des échantillons de bois sur lesquels Nima travaille et on a quelques échantillons en métal avec des produits de corrosion ou des pigments avec des tableaux. Et on essaye de retrouver les polychromies d'origine ou savoir si les métaux peuvent être restaurés et de quelle manière.
Alors donc un microscope qui sert à quoi?
Alors là c'est un binoculaire, le microscope permet d'agrandir encore plus que le binoculaire. Là on peut monter jusqu'à 40 fois environ. Et ça permet de voir des micro-échantillons qu'on a prélevés au préalable et de savoir, d'essayer de déterminer le nombre de couches qu'il y a dans une polychromie ou de déterminer le nombre de couches qu'il y a en produits de corrosion sur des métaux. Et par la suite, ces petits prélèvements, on va les analyser de manière moléculaire et déterminer chaque couche de pigment à quoi elle correspond ou chaque couche de corrosion à quel type de produit de corrosion ça correspond.
Donc plusieurs types d'objets, pas que de l'archéologie. Hein. Je vois des peintures, je vois des petites sculptures en bronze, des sculptures archéologiques également. Donc vous ne traitez pas que des objets archéologiques, c'est du patrimoine en général.
Eh bien non, moi effectivement, je me suis également diversifiée en faisant des l'identification de bois actuels dans le cadre de litiges qui peuvent exister avec la multiplication des constructions. Voilà, et je fais également en fait de l'identification de charbon, donc même de charbon de barbecue pour savoir si les fournisseurs respectent leur cahier des charges. Donc ce qui n'était pas le cas au départ, et maintenant depuis qu'ils savent qu'on a moyen d'identifier les bois qu'ils mettent dans les sacs, eh bien ils font beaucoup plus attention.
Voilà. Donc il y a une notion un peu écologique aussi.
Également, oui.
Donc là, qui vient vous poser des questions par exemple?
Actuellement, là,
ouais. Qui sont vos publics aujourd'hui?
C'est surtout des publics de particuliers avec des enfants qui sont attirés par tous ces objets.
Il y en a beaucoup, oui.
Oui, et puis un petit peu de professionnels entre nous, en fait. On apprend à se connaître également dans différents laboratoires.
Très bien. Et vous travaillez avec quel type d'institution en général?
Alors, soit c'est effectivement les particuliers comme ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui, soit des collectivités locales ou territoriales, ou même des petits musées de province, ou même le Louvre ou Versailles, et aussi les experts ou les galeristes.
Donc on voit bien effectivement l'archéologie, les musées, les galeries. Merci beaucoup de votre intervention. On va continuer notre petit tour du village aujourd'hui. Bonne journée. Voilà Léa.
Merci. Alors il y en a, comme on l'a déjà dit, hein, sur le village de l'archéologie, il y en a pour tous les publics, hein, depuis pratiquement 0 jusqu'à 99 ans, 0 peut-être pas, mais disons 3 ans, il faut attendre qu'ils sachent un petit peu marcher. En tout cas, il y a beaucoup de choses pour les enfants au village de l'archéologie, et eh bien, on va vous faire entendre quelques petits sons tirés de toutes les activités à destination des enfants.
Est-ce que tout le monde a son plan?
Les journées nationales de l'archéologie.
Radio Campus Paris.
Alors l'intérêt quand on fait une captation en radio d'une manifestation comme les villages de l'archéologie, c'est qu'on peut aussi se concentrer sur des manifestations bien très très sonores. Et nous avons justement avec nous Mylène Pardouen. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Vous présentez quelque chose au village qui est, alors il y a aussi de la vidéo, mais à la base c'est quand même un travail du son. C'est le projet que vous appelez Plan de Bretèze. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors moi je travaille dans l'archéologie du paysage sonore, c'est-à-dire que j'étudie, j'analyse les paysages sonores du passé avant que n'existent les moyens d'enregistrement et de diffusion sonore. Et je fais le grand bond dans le futur puisque je tente de les restituer. Donc la grande partie de mon travail tourne autour de l'archéologie de cette restitution. Je présente au village de l'archéologie le projet Bretèze que j'ai conçu et que je coordonne et qui est une restitution de Paris dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette restitution, elle est à la fois visuelle et sonore. Donc voilà, les deux parties sont complémentaires, elles sont liées l'une à l'autre, ce qui donne au paysage et au visuel une consistance assez particulière et qui fait appel à notre sensibilité.
C'est un travail dont on avait déjà pu parler d'ailleurs dans une précédente émission des Pierres qui roulent, une émission que nous avons consacrée à l'archéologie du son. On avait pu faire entendre à nos auditeurs votre formidable travail. Donc là, ce que vous présentez, on pourrait y avoir mis, enfin y être entré brièvement. On entre dans une salle qui est sombre et donc du coup on a du son qui nous prend en plein les oreilles tout de suite et on voit aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ça?
Alors on voit 50 hectares de Paris qui sont autour de la restitution de la place du Châtelet, donc une place du Châtelet qui n'existe plus. Donc on a l'apport de la ville de Paris, le Grand Châtelet, ensuite on va traverser le Grand Châtelet, on partira sur le pont au Change
On ira voir ce qui se passe sur la Seine et puis on revient par un chemin différent pour passer derrière la triperie et la grande boucherie. Voilà, y a tout. Et ensuite, on revient sur l'apport de la ville de Paris. Donc on aura fait un circuit qui nous permet réellement de nous promener à peu près dans, on va dire, entre 40 ou 50 ambiances sonores différentes.
Est-ce que vous avez eu à travailler avec des archéologues pour faire cette reconstitution du paysage?
Alors pour l'instant, j'ai essentiellement travaillé avec des historiens, tout type d'historiens. J'ai pas eu l'opportunité de travailler plus que ça avec des archéologues, même si après la première version, ils m'ont apporté des informations sur des éléments qui, sur lesquels moi je n'avais pas plus d'informations que ça. C'est une maquette qui est en constante évolution. La maquette que l'on voit, qui est projetée, c'est ce que j'appelle moi mon laboratoire. Donc cette maquette-là, ça va faire la 12e année que je travaille dessus, ça fait à peu près 3 ans que vous devez à peu près la connaître. Actuellement, ce qu'on entend, c'est la 9e version sonore, et elle est appelée à évoluer encore. À partir de ce produit de recherche, cet objet de recherche, nous on a commencé à décliner un objet très grand public qui sera visible sur smartphone ou sur tablette.
Qui pourra donc accompagner éventuellement les touristes dans leur pérégrination.
Tout à fait, c'est pour apporter la recherche, à la mettre à disposition du très grand public et contrer un peu les images faussées des jeux vidéo qui sont sur le créneau actuellement et qui n'aident pas beaucoup à la compréhension de l'histoire.
Bien sûr. Est-ce que vous diriez que ce projet, un peu à l'instar d'un projet comme Guédelon par exemple, ces gens qui reconstruisent avec les techniques du Moyen-Âge un château, a cette ambition heuristique, c'est-à-dire qu'il sert non seulement, donc il offre quelque chose au public, mais il sert aussi aux scientifiques pour essayer de comprendre...
Tout à fait. Cette maquette initialement elle était prévue à destination de musées. Et quand je l'ai présentée aux historiens pour faire valider mes concepts, ils m'ont dit « Ah, mais ça nous intéresse parce que ça va nous apporter des réponses que l'on ne trouve pas forcément dans les ouvrages. » Parce que le but de la maquette, c'est de recontextualiser par le sensoriel. Or, c'est une carte de lecture qui est complètement différente de celle qu'on trouve dans les livres. Donc oui, les historiens s'en sont emparés. J'espère que d'autres vont s'en emparer. Donc c'est un objet qui sert autant pour la recherche que pour le grand public. Et c'est vraiment ça, c'est ce qui est intéressant sur ce type de projet.
Et j'imagine que certains historiens ou archéologues se rendent compte de choses comme ça, parce que c'est un paysage qu'on a... évidemment du mal à se reconstruire dans nos têtes. Donc là, peut-être qu'il y a des idées qui peuvent surgir dans la tête de certains chercheurs en disant « mais oui, j'ai pas fait attention à telle proximité ou à telle imbrication dans des activités ou des choses comme ça ». Vous avez ce genre de retour déjà ?
Alors, j'ai pas tout à fait ce genre de retour à ce jour. Par contre, l'aspect sensoriel amène les chercheurs à se reposer, à reformuler les problématiques de manière différente.
Très bien, en tout cas c'est absolument fantastique. On peut si on n'a pas l'occasion de venir durant ce week-end, on peut retrouver cette vidéo du coup à quel endroit?
Alors la vidéo elle est en ligne, soit vous allez sur YouTube, vous faites Brothèse, hop ça descend, soit vous allez sur le site Brothèse. Et puis sinon moi je suis souvent sur toutes les fêtes très grand public parce que je trouve qu'il est important pour le chercheur d'aller au contact du grand public. Donc soit c'est sur Lyon, soit c'est sur Paris, mais je suis souvent présent parmi vous.
En tout cas, merci beaucoup pour ce projet qu'on suit, nous, au Pierre qui roule, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup, beaucoup d'attention. Merci beaucoup d'être passé au stand du Radio Campus Paris.
Merci pour votre invitation.
Et puis, bonne suite de week-end.
Merci.
Où es-tu, Guénora ?
Donc, je ne suis pas très loin. Hein. Je suis donc au centre de la cour ici de l'hôtel de Soubise. Et il y a des bacs à sable. Alors, on va nous expliquer ce que c'est que ces bacs à sable.
Je me permets de dire que les sons que l'on a entendus il y a quelques instants étaient tirés d'activités qui avaient été faites autour de ces bacs à sable.
Exactement. Donc, le lien est tout trouvé. Donc, je suis avec Eva de l'association Archéomédia qui travaille aujourd'hui conjointement avec l'INRA pour proposer des ateliers aux jeunes. Est-ce que, Eva, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez nous proposer, nous présenter un peu ce que vous faites aujourd'hui avec les enfants?
Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre de cette association donc, qui intervient dans ces journées avec l'INRAP, donc, en fait, il y a un atelier qui présente le métier d'archéologue. Et pour cela, en fait, on a deux espaces de fouilles qui permettent aux enfants de découvrir le métier, donc on le présente, mais aussi la manière de fouiller. Donc on leur présente la méthodologie, quelle est la démarche, comment on fait pour justement découvrir tous ces objets qui font rêver beaucoup de gens. Et voilà, pour être précis, pour qu'on puisse ensuite utiliser les informations qui proviennent de ces fouilles, qui vont être étudiées ensuite. Donc voilà, on leur explique.
Donc là, typiquement, on a un long bac à sable, des cailloux, des ossements qui ressortent.
On a différents types de matières, de matériel, voilà, qui sont agencés selon tel que le site a été découvert, donc en bordure de Seine, qui s'appelle le site de la rue Farnham. Et donc là, il y a deux espaces de fouilles qui correspondent à deux zones d'activité qui ont été découvertes sur le site, 2D6. Et donc, dans ces espaces, on a des ossements d'animaux, des ossements d'humains, voilà, la même chose pour les animaux, et puis des outils en pierre ou des pierres qui ont été utilisées pour certaines activités. Et bien sûr, en fait, cela... qui s'organisent d'une certaine manière. Donc c'est ce qu'on va voir aussi avec eux. Donc ils fouillent chacun leur carré. Et
là voilà, on voit des fils blancs effectivement qui délimitent des petites parcelles de travail.
Donc ça s'appelle un carroyage. Donc ça permet de délimiter un espace de travail, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est vraiment dans le travail de l'archéologue. Donc c'est pour l'enregistrement, en fait, c'est une source d'information. On délimite pour pouvoir reconstituer ensuite les objets là où ils étaient, et puis on remet ensemble les différentes données, et comme ça on a une image de la zone qui a été fouillée. Donc c'est une source d'enregistrement en fait.
Là vous avez vraiment reconstitué exactement le site dont vous parliez ?
Oui, exactement. Donc en fait, puisque c'est un site qui a été fouillé donc en 2008, on a toutes les données, voilà, donc tout a été étudié. Donc on a voilà, caché un petit peu le matériel en fonction de ce qui a été trouvé. Voilà, donc, parce que c'est pas un moulage de site, voilà. Bien donc sûr, on a reconstitué dans le cadre d'ateliers, voilà, donc il y a un espace de fouille. Et donc par contre, la répartition, ce qu'on appelle la répartition spatiale, l'organisation des différents types d'objets est vraiment conforme à ce qui a été trouvé dans ces zones d'activité dont j'ai parlé au début. Et voilà, donc on leur demande voilà, qu'est-ce qu'ils observent, quel type de matière. Voilà, ils reconnaissent si c'est des os, si c'est des pierres, des outils.
Donc là, je les vois derrière moi. Donc ce sont des enfants qui ont à peu près quel âge ?
Alors on les accepte, techniquement l'atelier est ouvert à partir d'un âge de 8 ans. Mm-hmm. Mais s'ils viennent avec les parents, ils peuvent venir... un peu plus jeunes aussi.
Donc ils sont munis d'une petite jaquette orange.
Voilà, pour montrer que, voilà, comme les vrais archéologues quand ils travaillent, donc c'est pour les repérer en fait quand on est sur un chantier de fouilles. En fait, on utilise ces gilets en fait de reconnaissance, voilà.
Voilà, pour être visible.
Pour être visible en cas de problème, etc.
Ce sont donc, des là, chantiers quand même.
Puis ça évite qu'ils se salissent et puis exactement. Ça fait. Voilà, donc...
Alors on va s'approcher peut-être du deuxième bac. Avec quel type d'outils ils travaillent ?
Alors on a différents types de matériel.
Des tamis.
Alors exactement. Alors on a un tamis, mais ça vient plus tard. Donc on va utiliser un pinceau, une petite pelle et un seau, donc chacun. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a rempli, parce qu'il faut enlever le sable, donc on va découvrir les différents objets qui sont sous le sable et sur le sol où le sol est reconstitué. Et donc, voilà, le seau se remplit et quand il est à peu près à la moitié, on leur demande d'aller tamiser. Donc, on leur explique pourquoi ça sert, comment on le fait. Et donc, c'est voilà, en fait, pour récupérer éventuellement des objets qui sont petits, difficilement visibles ou qui bougent facilement dans le sédiment. Mmh. Et donc, ça permet de récupérer du matériel, y compris sur un vrai site archéologique qui aurait pu être perdu... peut-être, enfin presque à jamais en fait, c'est vraiment de récupérer du matériel, même s'il ne va pas être étudié de la bien même sûr. Manière, puisqu'on a perdu sa position exacte, même si on sait éventuellement de quel carré il vient. Donc on ne pourra pas l'étudier de la même manière.
Bon, c'est important de sensibiliser les enfants à ce genre de pratique. Je vois là que le chantier vient de se terminer. Une de vos collègues est en train de remettre du sable sur l'ensemble des carrés.
Alors, c'est pour le prochain atelier. Donc, voilà, on est obligé de recacher parfois devant eux. Et d'ailleurs, on manque un petit peu de sable. Oui. Mais du coup, voilà, ils n'ont pas vu comment c'est avant. Donc, ça reste quand même une découverte pour les enfants. Et à la fin, en fait, on les sensibilise. Bien sûr, on présente la chronologie. Je ne l'ai pas dit au début. Mais à la fin, ce qui est très important, c'est que comme ils Certains peuvent penser que c'est un jeu, donc on leur dit que c'est une activité interdite s'ils ont un jardin. Donc on leur explique que c'est, voilà, que c'est interdit par la loi.
Ça ressemble à rappeler la législation.
Voilà, donc du coup, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc là, c'est vraiment qu'ils ont fait quelque chose de, de sérieux. Et que voilà, donc c'est, s'ils ont envie de faire ça, et voilà, ils ont, il y a des colonies ou, pour quand ils sont plus grands, ou, voilà, ou dans ce cadre, dans ce type d'atelier. Voilà.
Merci beaucoup, Eva.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Merci.
Les journées nationales de l'archéologie. Radio Campus Paris.
Léa, je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Alors, je suis actuellement avec Bernard Poirier, chef du service archéologique du Val-de-Marne. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce service ? Il y a combien de personnes dans ce service ?
Alors aujourd'hui, c'est un service de 17 personnes. On est situé à Villejuif, mais on intervient sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne. Donc on a des archéologues, on a une restauratrice conservatrice pour nos réserves et nos collections. On a un centre de documentation qui est ouvert au public sur réservation, il suffit d'appeler, qui est évidemment centré sur l'archéologie et le patrimoine archéologique départemental. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je ne vous ai pas mentionné ? Bien sûr, une cellule de médiation avec un espace d'aventure archéologique sur le parc des Hautes-Bruyères où on fait de la médiation auprès principalement des scolaires et des collégiens, mais aussi il y a le mercredi de l'archéologie qui sont ouverts à tous les publics. Que dire d'autre ? Bah, c'est déjà pas mal pour 17 personnes. C'est
exactement, tout à fait. Quels sont vos champs d'intervention sur le terrain ? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle l'agrément, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir sur tous les types de chantiers, ou avez-vous des périodes
Nous avons l'agrément qui est devenu une habilitation suite à la nouvelle réglementation sur l'archéologie, la loi L14, là, qui est date de juillet dernier, si je ne me trompe pas. Donc nous avons l'habilitation pour réaliser des diagnostics sur le département et on a l'agrément seulement sur les périodes médiévales et modernes. Mais on va redemander pour avoir l'agrément sur la proto-histoire, notre proto-historienne étant en congé maternité.
D'accord. Et quels sont vous présentez un vestige particulier qui doit attirer beaucoup de monde, je pense, lors de ces JNA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, parce que donc on fait de l'archéologie préventive, on fait des diagnostics, on conserve le mobilier qui est aussi issu d'anciennes découvertes. Et à l'occasion d'un diagnostic archéologique sur les lignes du Grand Paris Express, qui sont en cours de réalisation à travers le Val-de-Marne, on a trouvé un numérus de mammouth. Et donc, on s'est dit qu'à l'occasion des JNA, c'était l'occasion de ressortir notre mobilier. Et donc, on a plusieurs artefacts, pas des artefacts, mais des vestiges, un crâne de mammouth notamment, notre humérus de mammouth tout récent, une dent de mammouth qui a été trouvée à Maison Alfort il y a quelques années. Et on a refait une publication, un petit article de synthèse sur les mammouths du Val-de-Marne, si je puis dire. Donc, parce qu'on a à la fois un mammouth de 200 000 ans, enfin, c'est le plus vieux et c'est celui dont on a seulement trouvé une dent de lait. Alors, en même temps, c'est le plus jeune. On a un mammouth de 40 000 ans, on a un mammouth de 13 000 ans, donc c'est les derniers mammouths du secteur. Donc du coup, on a tout un échantillonnage aux différentes espèces de mammouths et c'est vrai que ça attire bien le chaland, le crâne de mammouth.
Sous le soleil, dans cette cour de Soubise, un mammouth en kit qui est disponible. Et vous faites des activités particulières avec les publics. Est-ce que c'est un vestige qui vous permet d'attraper en fait en quelque sorte du public qui ne serait pas passé vous voir par exemple ou...
Ah, c'est sûr, c'est comme les canapés Ikea. C'est-à-dire que vous venez voir le crâne de mammouth et on vous explique les liens qu'il y a avec l'ensemble de la discipline et des problématiques. Et c'est un point d'accroche important. Et c'est une façon à... Ce que je dis souvent, c'est que j'ai vendu plus d'archéologie que j'en ai fait. On a besoin d'expliquer que ce n'est pas simplement les professeurs Nimbus qui se font plaisir à chercher des traces qui n'intéressent personne. C'est le présent de tout le monde qui est impacté par toute une série d'événements dont on retrouve la trace sous les trottoirs qu'on arpente tous les jours. Et ça, c'est presque une action politique, en fait.
Le vestige devient objet de médiation aussi, ouais. Effectivement. Ouais. Très bien. Et est-ce que vous avez en ce moment des fouilles particulières ?
Alors, pour le... Des fouilles, non, mais on a des diagnostics en cours. On fait beaucoup de diagnostics parce que là, il y a beaucoup d'aménagements dans le département du Val-de-Marne, là, notamment avec les lignes du Grand Paris Express. Donc, on a des diagnostics à Valenton, on a dans plein de communes du département. Mais pour l'instant, on n'a pas de fouilles vraiment prévues dans l'immédiat.
D'accord. Et j'ai cru voir sur votre stand, je reviens au stand dans cette cour de Soubise, quelqu'un qui parlait beaucoup de géologie.
Oui, parce que forcément, quand on parle d'archéologie, on est aussi obligé d'avoir un petit peu de maîtriser notre environnement. Donc on a une approche sur la géologie, on a aussi un anthropologue, on a quelqu'un qui est spécialiste sur la faune. Donc je vous ai dressé un portrait à toute vitesse du service, mais chacun des spécificités, des spécialités.
Et tout le monde est là aujourd'hui pour en rendre compte.
Il y a une bonne mobilisation du service, oui, je suis content.
Et puis le stand, je peux en témoigner, ne désemplit pas.
Oui, il y a du monde, c'est bon.
Et bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour venir sur le stand de Radio Campus Paris.
Merci à vous de m'avoir donné la parole. Au revoir.
Les journées nationales de l'archéologie.
On voulait être dans un lieu public. La notion de village, elle a du sens. Il faut que ça reste forum, il faut qu'il y ait des portiques, il faut qu'il y ait des alcôves pour réunir des gens. Donc il fallait que ça soit central, mais aussi où les gens ne soient pas perdus. C'est pas un match de foot, c'est un endroit où les regards doivent s'orienter, les questions doivent s'orienter. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'il y ait ce contact entre les Parisiens au sens large, les occupants de l'Île-de-France et les archéologues. Et que ce contact soit médiatisé, mais soit pas flouté. C'est-à-dire que les gens peuvent directement poser une question à un archéologue, un chercheur, que le discours soit pas uniquement des éléments de langage, mais une expérience partagée, une émotion partagée, etc. Parce que c'est ça, les journées d'archéologie, c'est pas des colloques, c'est pas c'est un discours sérieux fait par des gens sérieux, mais pour qu'il y ait du plaisir et des choses qui se transmettent.
Radio Campus Paris.
Je suis sur une peau de bête, en plein milieu du village de l'archéologie, avec un monsieur habillé en rouge qui a le sigle INRAP sur la chemise et qui est en train de taper entre deux bois de cervidés. Peut-être qu'il va me donner plus d'informations. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je suis en train de faire une petite pointe de flèche.
Quels sont les outils que vous utilisez ?
Et ben là, je me sers d'une petite andouillée de serre. Et puis je me sers d'une petite enclume, je suis en train de faire l'ébauche là, je me sers d'une petite enclume, c'est une corne, un bois de serre pour faire une petite enclume quoi.
Est-ce que vous proposez donc des ateliers ici ?
Les ateliers, les enfants, faut pas qu'ils manipulent. Parce qu'en fait c'est un peu dangereux pour eux quoi. Donc on leur montre, on leur explique quoi. Mais là c'est juste, comme il y a un petit moment de creux, je fais une petite pointe de flèche, mais sinon on leur explique la taille de silex en général quoi.
Donc comment est-ce que vous opérez avec donc les objets que vous venez de me montrer ? Est-ce qu'il y a d'autres types d'objets que vous pourriez me montrer là ?
Là, c'est surtout, on leur explique simplement l'évolution un peu en gros, quoi, l'évolution de la taille de silex depuis le paléo-ancien jusqu'au néo. Quoi, et on prend comme exemple les différents types de taille, quoi, les percussions dures ou les percussions tendres, pour montrer l'impact que ça a dans le silex et puis comment le tailleur exploite son silex et comment il utilise les outils en fonction de ce qu'il a à tailler. Quoi.
Vous, c'est votre métier ?
Non, moi je suis archéologue à l'INRAP, mais je suis chargé de la topographie à l'INRAP. Moi.
Et vous aimez taper sur des cailloux ?
Et j'aime taper sur les cailloux le week-end.
À défaut de taper sur des bambous. Ben écoutez, donc derrière je vois des flèches, des éléments peut-être reconstitués que vous avez ?
Ouais.
C'est vous qui les avez faites ?
Certains, mais c'est la plupart, c'est mon collègue, c'est Fabrice là, qui voulait pas parler là. Et du coup, c'est simplement pour extraire les différents matériaux qu'on peut tailler, qui se taillent facilement, parce qu'on peut tailler aussi des trucs qui se taillent moins bien. Mais là, comme on est en Île-de-France, on a du silex, on a du grès pour montrer ce qu'on a en Île-de-France. Et on a différents types de silex franciliens. Et on a aussi quelques matériaux exogènes pour expliquer en gros ce que les hommes préhistoriques pouvaient tailler. Donc on a aussi de l'obsidienne parce que ça, puis les gamins aiment bien, c'est joli, c'est une jolie matière. Et puis en fait, on a des objets taillés en obsidienne qui sont très fins justement, parce que comme l'obsidienne, c'est un verre naturel.
Ça, c'est vous qui l'avez fait ?
C'est Fabrice ça, qui l'a fait celui-là. Donc c'est des objets qui sont très fins. Et puis on a quelques objets en matière organique. C'est aussi pour montrer que dans le sol, il y a beaucoup d'éléments disparaissent et il nous reste que très peu d'informations. Quoi. Et on doit se baser uniquement sur le... Ça, c'est du tendon, ça.
C'est du tendon, d'accord. Du tendon, je tiens serre, donc un tendon dans la main.
Voilà, du tendon dans la main. Ça fait des très bonnes ficelles, en fait.
Ouais.
Et ça permet aussi de ligaturer les armatures.
Et là, vous avez des choses un peu plus brillantes.
C'est de la fibre optique et c'est Fabrice qui s'amuse à tailler n'importe quoi. Il s'amuse à tailler de la fibre optique. C'est une pointe de flèche avec, quoi.
Et donc là, ça, vous avez une coquille Saint-Jacques avec...
Ah ouais, bah ça, c'est de la colle préhistorique, là. C'est simplement pour expliquer comment on fixe les armatures sur le fût de la flèche, quoi. C'est une colle qui est fabriquée à base de cire, de résine et puis de charbon écrasé, quoi. Et du coup, à chaud, ça devient liquide, plastique, quoi, et liquide. Et puis, ça permet de coller les armatures sur la flèche, quoi.
Je vous remercie beaucoup.
Ça va très bien.
Je vous souhaite une bonne fin de taille.
Eh bien, merci.
Les Journées nationales de l'archéologie.
Radio Campus Paris.
Nous sommes avec Émilie Cavana du département d'histoire de l'architecture et d'archéologie de la ville de Paris. Bonjour Émilie.
Bonjour.
On a déjà eu l'occasion de t'entendre à l'occasion d'une petite pastille de présentation des journées il y a quelques mois. Mais du coup, on avait envie de revenir sur le stand pour savoir concrètement que tu nous représentes ce que vous proposez au grand public durant ces journées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on va au stand du DHAAP?
Eh ben, on peut découvrir des panneaux qu'on a réalisés pour retracer les 170 ans d'activité du service archéologique municipal. Donc on peut voir un panneau sur le fondateur de l'archéologie parisienne qui est Théodore Vaquier. On peut aussi voir les grandes fouilles qui ont eu lieu récemment, dont la fouille de Saint-Germain-des-Prés. Et puis on peut aussi découvrir les nouvelles missions du service archéologique orientées autour de notre projet qui s'appelle le RECAP, qui est un référentiel et cartographie de l'archéologie parisienne. On le présente en fait sous forme de logiciel. Enfin, on peut manipuler en fait notre petite application qui est disponible maintenant pour les chercheurs sous son format web, un petit peu naviguer dans la base de données qui est associée à cette cartographie.
Super. Et donc du coup, vous avez eu beaucoup de monde pour l'instant qui...
Oui, pas mal. Les gens sont intéressés, surtout qu'on présente des cartes anciennes. Donc généralement, les Parisiens sont toujours très intéressés pour voir l'évolution de Paris sous son format, cartographique. Et donc, ils ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de localiser là où ils habitent et de comparer. C'était habité, pas habité, etc.
D'accord, très bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, effectivement, Saint-Germain-des-Prés est très à l'honneur durant ces journées, puisque, pour le redire, il y a Carnavalet qui expose quelques vestiges dans les grands dépôts. Saint-Germain est vraiment dans l'actualité. Alors pourquoi Saint-Germain-des-Prés, en fait? Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce qu'il y a un focus? Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Germain-des-Prés il y a quelques...
En fait, c'est une des très grandes fouilles réalisées par Théodore Vaquier en 1870. Et il se trouve que les collections qui sont issues de ces fouilles sont conservées par le musée Carnavalet et la bibliothèque historique du Vieux Paris conserve, elle, ce qu'on appelle les papiers vaqués, donc tous les volumes qui rassemblent les notes de fouilles, le journal de fouilles, les plans de restitution de Théodore Vaquier. Et donc, en fait, à l'occasion de la fouille qui a eu lieu en 2015, il y a eu un rapprochement entre les différents services. Et donc, aujourd'hui, on s'était dit que c'était l'occasion de montrer que différentes institutions de la ville possèdent des témoins d'activité de Théodore Vaquier.
Et que les objets rejoignent les archives papier et puis ils peuvent comme ça permettre le bon déroulement des fouilles archéologiques. Merci beaucoup en tout cas pour d'être venu jusqu'à nous. Et puis bonne chance et bonne vie à RECAP.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Radio Campus Paris.
Et donc nous allons retrouver Enora qui doit se trouver quelque part au fond de la cour avec des gens habillés un peu bizarrement. Enora, est-ce que tu nous entends ?
Moi je vous entends, est-ce que vous, vous m'entendez ?
Et nous t'entendons.
Oh là là, la technologie est incroyable. Donc effectivement je suis avec des personnes habillées, ben, pas comme moi, hein, puisque ce sont des hommes avec des bijoux, ce sont des hommes avec de jolies chaussures en cuir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui ? J'ai vu des guerriers tout à l'heure faire du bruit. Qui êtes-vous ?
Alors, nous sommes les Enfants de Fine, nous sommes une association Loi 1901. On fait de la reconstitution historique, on reconstitue des plombes gauloises allant du 3e siècle au 1er siècle avant notre ère, aussi bien sur la vie civile. Par exemple, aujourd'hui, l'ANATA qui est présente reconstitue les activités de tissage que sur les activités guerrières avec boucliers, lances et épées.
Donc c'est vous qui avez tout fait ?
Non, on fait appel à des artisans pour nous refaire des objets semblables à ceux qu'on a retrouvés en campagne de fouilles. Des gens doués et qu'on remercie au passage, qui nous refont des objets en bois, en métal, qu'on a la joie de porter aujourd'hui.
Et c'est magnifique, c'est très joli. Les motifs, par exemple, que vous avez là, l'espèce de tartan, est-ce que ce sont des choses qui existaient vraiment à l'époque ? On a retrouvé ça en fouille ?
Les couleurs existaient à l'époque. Je vais demander à la Nata d'intervenir, parce que c'est elle qui est plus spécialisée sur le tissu.
Une jeune femme, donc, en robe. Bonjour. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu les tissus que vous portez. Qu'est-ce que c'est et comment ça a été reconstitué ?
Alors, les tissus celtes que l'on restitue, en fait, c'est donc on arrive à les reconstituer à l'aide de plusieurs sources archéologiques. Donc déjà des découvertes de très petits fragments de tissus qui sont conservés, donc soit dans les mines de sel, par exemple en Autriche, ou alors dans la gangue de corrosion des outils, des objets en métal. Donc par exemple une épée en fer, donc un guerrier qui est enterré avec son épée et la corrosion qui se forme autour de l'épée va conserver des fragments de tissus. Donc c'est comme ça qu'on a de certaines techniques de tissage, comme le tissage aux tablettes par exemple, celui que je suis en train de pratiquer actuellement.
C'est toi qui le fais ?
Voilà, là c'est moi qui fais. Donc on fait effectivement à l'aide de tissage aux plaquettes ou aux tablettes, donc des galons donc, qui nous servent soit de ceinture, soit après de renfort dans les bords de manches ou dans les bords de tunique.
Et là au niveau des bijoux, qu'est-ce que c'est comme bijoux ?
Là, principalement, ce que je porte, c'est des fibules, donc pour attacher le col de ma robe.
Comme des boutons, mais longs, en fait.
C'est ça. En fait, la fibule, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Donc, du coup, ça fonctionne de la même manière, avec un ressort et puis un aiguillon, donc pour planter dans le tissu et puis pour refermer et attacher le tissu. Donc, c'est effectivement comme ça qu'on fermait les tissus, les vêtements à l'époque gauloise. Donc pour les armes, donc déjà on part effectivement des découvertes archéologiques. Donc on sait que dans une sépulture, on va avoir un guerrier en armes, donc avec toute sa panoplie, donc l'épée, le bouclier, la lance, principalement. Après, donc effectivement, l'idée de la reconstitution, donc de reproduire des objets à l'identique pour pouvoir les manipuler, c'est aussi de comprendre comment on s'en servait. Donc il y a la dynamique de l'objet en lui-même. Une épée longue, une épée courte, une lance longue, une lance courte. Et après, on a les sources antiques. Toujours pareil, on lit les auteurs grecs et romains qui nous décrivent des champs de bataille, qui nous parlent du tumultus gallicus, donc tout le bruit que les Gaulois font avant d'entrer dans la bataille. Donc à la fois...
Ce qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure.
Hein. Exactement. L'idée, c'est d'impressionner l'ennemi. Donc à la fois avec des cris donc pour interpeller l'ennemi, le défier en duel, et aussi avec des instruments donc sonores ou voire de musique, donc comme la fameuse trompe de guerre, le carnix.
Voilà. Je ne sais pas si vous en avez.
Non,
j'ai vu des lances.
Une lance tintante, en fait, ce qui a été retrouvée donc dans une des sépultures de la nécropole gauloise de Bobigny, donc qui est datée du 3e siècle avant notre ère, et donc qui est un instrument sonore. Donc on ne comprend pas très bien comment les Celtes, enfin à quelle occasion ils s'en servaient, mais on a baptisé cette lance la lance tintante. Et elle était...
En fait, ça ressemble à une lance, sauf qu'elle est creuse et au milieu il y a des petits hochets.
Tintina, voilà, exactement, qui permettent de faire du bruit. Donc on peut, si vous voulez, entendre la lance.
Ah oui.
Donc ce n'est pas vraiment un instrument musical à proprement parler, enfin, c'est une espèce de percussion, mais on pense qu'effectivement ça pouvait par exemple rythmer une histoire ou un conte, et le dragon surgit. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait.
On aurait pu effectivement confondre ça avec un objet...
Voilà, exactement, une arme, mais non,
tout à fait. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, tous. Vous êtes tous très beaux. Je crois que vous avez des prénoms spécifiques, si j'ai bien compris.
Tout à fait, oui.
Comment t'appelles-tu ?
Alors, je m'appelle Lainata, puisque c'est moi qui fais le tissage dans la troupe. Et donc, du coup, Laina, la laine.
Super.
Merci beaucoup, Lenata. À bientôt.
À bientôt.
Les journées nationales de l'archéologie.
Donc, bonjour. Bonjour, vous êtes Nicolas Courtin des archives de Paris.
Tout à fait.
Et donc vous êtes ici sur un stand qui propose au grand public une série de plans topographiques, de cartes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les sources exactement que vous présentez au public?
Donc on ne présente pas de documents originaux, mais l'idée est de présenter les documents numérisés qui peuvent aider à la recherche essentiellement topographique. L'idée est de montrer comment l'archéologue doit passer par les archives quand il fait l'histoire d'un site, d'un terrain, d'une parcelle. Et dans le cas de Paris, d'une histoire urbaine, les sources sont divisées entre les archives de Paris et les archives nationales. Et donc notre idée était d'abord de montrer ce que nous mettons à disposition du chercheur par le biais du site internet et également de présenter et d'expliquer les autres sources qui ne sont pas encore numérisées et qui peuvent être utiles pour l'histoire d'un lieu.
Et est-ce que ces ressources numériques, elles sont disponibles que pour les archéologues ou est-ce que n'importe qui peut se rendre sur le site et puis consulter?
Non, le site est public et est un site accessible à tous, comme l'accès aux documents originaux est ouvert à tous. Porte des lilas dans les horaires habituels de la semaine.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples de ces plans en fait, que vous mettez à disposition en format numérique et en matériel?
Alors, principalement, en tant qu'archives municipales, on hérite de tous les fonds de plans du cadastre. On prend la suite de l'atlas et des plans de Vassereau qui sont conservés ici aux Archives nationales. Mais ensuite, pour le 19e et le 20e siècle, c'est chez nous que l'on va trouver ces plans qui permettent de voir l'évolution des parcelles et l'évolution du bâti et de faire le lien avec les documents écrits, les fameux calepins du cadastre, qui permettent de rentrer un peu plus en avant dans l'histoire d'une maison, dans l'histoire des propriétaires, dans l'histoire de son occupation, et de faire le lien aussi, dans un deuxième temps, vers les mutations architecturales, c'est-à-dire vers les permis de construire, qui sont une autre source conservée aux archives de Paris, extrêmement utile pour comprendre l'histoire d'un lieu. Savoir quand a été construit le bâtiment, c'est évidemment la première question qu'on doit se poser avant de creuser sous le bâtiment.
Et j'imagine que du coup, vous travaillez souvent en relation avec le département d'histoire de l'architecture et d'archéologie de Paris qui doit venir vous consulter.
Oui, bien sûr, qui est un département cousin du nôtre, tous les deux intégrés à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Et l'équipe d'archéologues, effectivement, qui connaît parfaitement nos fonds et on travaille effectivement en collaboration, j'allais dire, pas quotidienne, mais continue.
Et alors, quel est le lien avec cette fameuse série des cartes et plans qui est disponible donc juste derrière nous et qui est consultable aux archives nationales? Est-ce que vous avez des fonds qui sont postérieurs à ceux qui sont archivés aux archives nationales?
D'une manière générale, les archives de Paris sont... Les fonds des archives de Paris sont majoritairement postérieurs puisque l'incendie de l'hôtel de ville de la commune a fait disparaître tout le fonds ancien. Donc ce sont effectivement des fonds qui viennent se placer en continuité du fonds ici de la section cartes et plans des archives nationales. Et puis surtout, c'est une différence d'échelle puisque nous avons vocation à conserver les documents qui concernent Paris intramuros et l'ancien département de la Seine, alors qu'évidemment ici, les archives nationales conservent des documents sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons un fonds plus réduit dans le temps, mais aussi en termes de géographie.
Et est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir comme ça, curieux de comment se construisaient, comment était leur espace dans lequel ils habitaient, par exemple, les années précédentes?
Oui. L'intérêt pour connaître l'histoire de sa maison, c'est un peu comme connaître l'histoire de sa famille. C'est effectivement une thé qui se développe. Et puis, il y a de plus en plus, et on s'en félicite, les étudiants d'école d'architecture qui s'intéressent de plus en plus à l'histoire, urbaine, à la morphologie d'un quartier. Et ce sont là aussi des lecteurs très assidus et qui sont beaucoup plus familiers avec les documents graphiques qu'avec les documents écrits. Ils ont cette culture de l'œil, du regard et du dessin qu'ils pratiquent, mais qu'ils lisent aussi. Et donc, eux sont très avides de consulter les documents graphiques qui accompagnent les permis de construire, mais qui aussi viennent de toutes les directions techniques de la ville, les aménagements des ZEP, toutes les archives qui viennent des sociétés d'économie mixte qui ont opéré les aménagements des années 70-80 qui sont chez nous désormais.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup le site internet en question sur lequel on peut consulter ce genre de...
C'est tout simple, c'est archives.paris.fr. Et vous trouverez bien plus que les documents graphiques, puisque les documents numérisés sont aussi toutes les sources sur la généalogie, l'histoire de la généalogie que les Parisiens cherchent, sont de plus en plus avides de connaître, et les principaux outils d'accès vers ces sources-là qu'on essaye de mettre en ligne pour faciliter encore plus l'accès à cette histoire parisienne.
Bien, merci beaucoup. Et puis cette facilitation d'accès, elle passe aussi par votre présence lors de ces journées nationales d'archéologie qui drainent beaucoup de monde là devant nous, là sous le soleil. Dans cette cour, il y a beaucoup de monde.
L'idée, c'est d'allier du divertissement et de la connaissance qui ne soit pas dévoyée par cette volonté de divertissement. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que quel que soit le visiteur, quel que soit son âge, quel que soit son profil, il va repartir de sa visite, et il peut venir les 3 jours s'il en a envie, il va repartir de sa visite en ayant appris quelque chose. Les tout-petits auront appris de toute façon à travers les ateliers, ou les plus grands d'ailleurs, c'est pas réservé aux tout-petits. Et puis ceux qui connaissent un peu mieux, ou beaucoup mieux, repartiront en ayant échangé, pour ceux qui ont de la chance avec leur père, et pour ceux qui sont des amateurs éclairés, ils repartiront forcément avec des connaissances sur ce qui se fait de plus pointu en ce moment sur ces questions-là.
Alors Enora, au fil de tes pérégrinations, tu es aussi tombée sur un stand de librairie
qui est juste à l'entrée du village archéologique. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous représentez aujourd'hui la librairie Picard et Pona. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les ouvrages que vous présentez ?
Alors, la librairie est déjà spécialisée en archéologie habituellement, puisque nous sommes une librairie des éditions Picard et des éditions Errance, deux éditeurs spécialisés en archéologie. Donc là, j'ai voulu présenter un certain nombre d'ouvrages que j'ai sélectionnés à la librairie parmi les ouvrages, je dirais, plus accessibles à un grand public.
Donc vous avez des choses pour adultes, des choses pour enfants, donc les tables sont séparées ainsi. C'est assez facile à voir parce qu'effectivement, les ouvrages pour enfants sont beaucoup plus colorés. Dans les ouvrages adultes, vous avez vraiment des choses aussi très spécialisées, notamment ici, donc des revues. La fameuse revue Archéopage. Des choses très générales.
Alors en fait, il s'agit de la collection Archéologie de la France, qui était donc sous la direction de Jean-Paul Demoule et Jean-Paul Jacob, deux directeurs de l'INRAP. Donc c'est toute une collection qui présente, sous une forme assez synthétique, mais quand même également assez détaillée, les grands thèmes de l'archéologie en France, depuis le paléolithique jusqu'à l'archéologie moderne et contemporaine, et également à travers des thèmes comme l'archéologie de la mort, l'archéologie de l'environnement, l'archéologie de qu'est-ce qu'il y avait encore, du territoire. Donc ce sont des ouvrages destinés à la fois à des étudiants, des professionnels, et également à un grand public averti.
La revue Archéopage également, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors la revue Archéopage, c'est une revue de l'INRAP, sous forme souvent de thématiques, les recherches en cours. Donc c'est plutôt en effet sur l'actualité de la recherche et de façon quand même assez scientifique.
Pour les enfants, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ?
Pour les enfants, vous avez essentiellement la collection d'archéologie à petits pas et à très petits pas, publiée par Actes Sud Junior, qui est donc une collection qui explique aux enfants depuis la préhistoire jusqu'à plein de thèmes différents, autres que l'archéologie d'ailleurs. En tout cas, pour l'archéologie, ceux que je présente ici sont plutôt des livres qui ont été écrits en coédition avec l'INRAP, donc écrits par des archéologues et illustrés par des illustrateurs chevronnés.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.
Les journées nationales de l'archéologie. Alors un petit rappel avant de conclure sur cette émission sur les différents morceaux musicaux que vous avez pu entendre. Vous avez entendu donc In the Navy, The Village People. Vous avez entendu la chanson Christopher du groupe Sweet Like an Ape. Et ensuite, pour terminer, la chanson Oulala du groupe Junior. Et il est grand temps de conclure sur sur ce grand moment d'antenne dans la cour de l'hôtel de Soubise pour les Journées nationales de l'archéologie. Donc c'est une très belle manifestation, très dense, très riche. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, il y a tous les âges. On y découvre et on y apprend tous les maîtres.
Une très bonne ambiance.
Très bonne ambiance. Décrit,
un réalisateur
à toute épreuve. Merci Hugolin.
Et sur ce, on vous souhaite également une belle fin d'année radiophonique puisque c'était notre dernière de l'année. Et on vous dit à la rentrée prochaine.
À la rentrée. Bon été.
Son.